à bien vous disposer pour écouter l'Évangile. L'Évangile qui est toujours le même. Il n'y a pas l'Évangile pour le temps des apôtres, pour les vieux de la vieille. Il n'y a pas l'Évangile pour les enfants d'aujourd'hui. C'est le même Évangile, le même Dieu, la même parole. Et je voudrais lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 1er. On affichera un jour bientôt, parce que je vois des personnes qui n'ont pas la Bible avec eux. Ce n'est pas un reproche, vous savez. On ne sait pas que la Bible doit être lue dans les églises, mais ça peut venir très vite. On a la technique. 2 Timothée 1, 1. Alors, je vous entretiens sur deux petits sujets de cette épître qui, je vous rappelle, a été la dernière lettre de l'apôtre saint Paul. Il va mourir, il est à Rome, condamné par l'empereur romain, Néron. Il n'a rien fait de mal, rassurez-vous. Il est condamné à mort. Il est déjà passé au tribunal et il sent bien que cette fois-ci, il n'a pas d'espoir. Enfin, on a l'espoir en Dieu, mais parfois, on n'a plus l'espoir de guérir ou de s'en sortir. Il n'a plus l'espoir de vivre. J'ai achevé ma course. Voilà. Alors, c'est une épître testament. Vous savez, quand on a tout donné, tout fait, tout vécu, on a envie de donner des choses à ses enfants, des secrets. Et je crois que là, dans cette épître que vous relirez, vous verrez l'apôtre avec son cœur à nu. Je peux lire ? Voilà. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de ta foi, de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Amen. Bénis ta parole ce matin, bénis notre cœur, que nous entendions, que nous recevions, que nous en vivions. Amen. L'Évangile, c'est une promesse de vie. Parce qu'on n'a pas vraiment la vie, la vraie vie comme Dieu l'entend. Nous sommes alourdis par les années, par les maladies, par les déceptions, par les chagrins. Dieu nous a promis une vie supérieure, sa vie, sa qualité de vie, sa longévité de vie. Et l'apôtre, il a la mission d'annoncer la promesse de cette vie. Vous ne resterez pas des limaces, vous aurez une vie supérieure, comme les anges, comme Dieu lui-même. C'est une promesse, donc c'est un engagement de Dieu, donc c'est une certitude. C'est une certitude. Ça va se passer comme ça. Je ne regarde pas la terre qu'on met sur les cercueils, je ne regarde pas les années qui passent, je regarde cette certitude de vie, déjà pour aujourd'hui, et demain, et là-haut. Alors Paul, il va parler à ce Timothée qu'il appelle « mon enfant bien-aimé ». Parce que Timothée, il est devenu chrétien grâce à l'apôtre Paul. Ça a été comme si l'apôtre Paul avait accouché d'un petit garçon qui s'appelle Timothée. Je pense qu'il faut beaucoup d'affection entre nous. Je pense que la vie aujourd'hui est remplie de violence, de trahison, de déception. Mon enfant bien-aimé. Il faut beaucoup d'affection pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les âgés, pour les gens qui passent inaperçus. Il faut pas seulement des paroles qui forment la foi, mais il faut beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Puis je pense que ce qui doit toujours exister dans l'Église, c'est la reconnaissance. Je rends grâce de ce que mes ancêtres ont servi. Voilà comment Paul parlait. Et ta grand-mère, et ta mère, il parle des anciens. Je crois qu'il faut de la reconnaissance pour ceux qui ont été avant nous, dans les siècles passés. Il ne faut jamais dire « Oh, c'est vieux, c'est fini, c'est rien. » Ce n'est pas rien. Ils ont été les mains et la voix qui ont transmis la parole jusqu'à nous. Ils ont accompli leur tâche avec parfois peine et misère. Reconnaissance pour les ancêtres. Ton aïeul, ta grand-mère, ta mère, il y a une continuité dans l'Église. Au début, Abraham, c'était Abraham et Isaac et Jacob. On ne parlait jamais de l'un sans l'autre. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph. C'était une famille sur plusieurs siècles, mais ne formait qu'un, et quand Dieu se présentait à Moïse, il a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu de Jacob, et le Dieu d'Isaac. » C'est un Dieu de la famille. C'est par la famille que la parole se transmet. Par la famille, Dieu parle à tous. Je crois que parfois, on voudrait des conversions spontanées, sans personne, tout seul, dans son désert, oui, désert, dans sa forêt. Mais je crois que Dieu passe par le moyen de nos parents. Il ne faut pas mépriser ces maillons, ces communicants, ceux qui ont passé le flambeau, même s'ils sont très âgés, s'ils sont disparus, s'ils ont fait des erreurs. Il ne faut pas les mépriser parce que nous arriverons devant le tribunal du Christ avec ces paroles de mépris. Qu'en pensez-vous? Et je crois que là, nous serons confus devant ces hommes et ces femmes. Ça fait des années que je suis à Rennes, et que j'ai vu passer des sœurs âgées, des frères âgés qui ont transmis le flambeau. Ils m'ont pas forcément appris beaucoup de choses, mais ils ont prié pour moi. Ils se sont tenus à mes côtés et à vos côtés. Ils ont été des repères, des appuis, des gens rassurants, des gens gentils. Ça, c'est un flambeau, c'est une flamme. On n'a pas seulement besoin d'études bibliques, on a besoin aussi d'avoir des gens qui nous tiennent la main et qui nous disent « Rassure-toi, console-toi, nous sommes là, nous ne t'oublierons jamais, nous prions pour toi. » L'apôtre Paul dit aussi « Sans cesse, je fais mention de toi dans mes prières, sans cesse, jour et nuit. » Ça me dépasse. J'essaie de prier jour et nuit, mais j'ai quand même du mal. J'ai l'impression que c'est une façon de parler. Je prie jour et nuit pour toi. Ça dépasse nos forces humaines. Mais ça veut bien dire que chez l'apôtre Paul, il avait un souci de présenter tous les chrétiens qu'il connaissait à Dieu dans sa prière. L'apôtre Paul avait ce souci de présenter Timothée. On entendait parler de Timothée là-haut dans le ciel. On entendait parler de vos enfants. On a besoin de dire à Dieu tout ce que nos enfants font, ont, souffrent. On a besoin de les présenter au cœur de Dieu. Avons-nous confiance dans le Dieu qui entend la prière? Ce Dieu qui les enregistre nos prières et elles ne seront jamais perdues. Et peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, le Seigneur dira, j'ai exaucé ta prière. Je crois qu'on a besoin de retrouver la foi et la certitude de la prière. Nos prières privées, nos prières secrètes, nos prières que personne ne peut entendre. Paul présente Timothée parce que Timothée, un jour, il a pleuré, même plusieurs fois. Et l'apôtre Paul, il a vu ses larmes. Je crois qu'il faut qu'on regarde les larmes des autres. Il ne faut pas qu'on soit indifférent. Il ne faut pas qu'on dise aux Syriens, elle va s'en remettre. Elle a passé un chagrin, elle va s'en remettre. Paul a vu les larmes de Timothée. Des larmes pourquoi? Peut-être parce qu'il a été déçu, parce qu'il a eu des conflits dans son église. Des larmes parce qu'il a des luttes pour apporter la parole, des fatigues. Et parce que Paul, il lui a dit un jour, je vais partir. Alors il a pleuré, il a quitté la ville. Paul, à l'époque, était à Éphèse. Et Timothée était le pasteur d'Éphèse en Turquie. Et quand Paul est parti, il a pleuré, Timothée. Et toute l'église a pleuré. On aimait Paul. Alors, me rappelant tes larmes, je crois qu'il faut bien écouter les autres. Il faut bien regarder les autres. Il ne faut pas négliger la souffrance, la fatigue, la tristesse que vous voyez sur le visage des autres. Ça fait partie de ce qui doit alimenter nos prières. Et puis Paul, il a certainement vu Timothée découragé parce qu'il était fragile dans sa santé. Il avait des problèmes d'estomac, c'est ce que la Bible dit. Et puis il avait peur parfois, il craignait. Ce n'était pas facile, même à cette époque, même dans cette église qui était apparemment florissante au début. Puis après, des gens sont arrivés, des loups. Il s'introduira parmi vous des loups qui n'épargneront pas l'église. C'est ce que Paul disait. Et il y a toujours des gens qui viennent arrêter une œuvre de Dieu, semer du venin, de l'ivraie, du trouble, des inquiétudes. Alors, Timothée, il devait pleurer. J'ai vu tes larmes, c'est pourquoi je prie. Mais Paul, il priait pour Timothée à cause de sa foi. Il avait, Timothée, une grande foi sincère. La foi, c'est le courage d'avancer avec Dieu, le courage de ne jamais se retourner. La foi, c'est la confiance en Dieu quand la barque bouge un peu. La foi, c'est le don de sa personne, le don de son temps, le don de son écoute. C'est la fidélité. C'est combattre le bon combat, rester ferme dans les enseignements de Jésus. La foi, ce ne sont pas des élans pour être applaudi. Tout ça, ça n'a aucune apparence, aucune importance, c'est de l'apparence. Mais l'apôtre dit justement, dans l'épître à Timothée, à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la foi, mais ils n'auront pas la force de la foi. C'est pourquoi toi, Timothée, eh bien, je prie pour toi, je prie pour ta foi, afin que tu sois fort et que tu sois encourageant pour l'Église. Ça, ce sont des qualités que le pasteur a besoin, que chacun a besoin, parce que ce qui est pour le pasteur est vrai pour vous. Il n'y a pas de différence, on est tous des enfants de Dieu, on est tous dans le même bateau, dans la même barque, alors que la foi nous soit redonnée en abondance. Amen. Et puis, deuxième chose à vous dire, l'apôtre Paul dit, ranime le don de Dieu qui t'a été donné. Ranime le don de Dieu qui est déjà en toi. Et peut-être qui sommeille, qui vacille, qui n'a plus la même vigueur. Ranime-le, puisque tu as déjà la foi, puisque tu connais Dieu. Réenflamme. Peut-être que ce matin, on pourrait appeler notre culte réenflammer son cœur, réenflammer sa foi. Il faut réenflammer, Timothée, ton cœur, parce que des souffrances arrivent devant toi et tu ne le sais pas. Parce que devant toi, l'apôtre que tu aimes, l'apôtre Paul, il va mourir bientôt. Parce que l'Église va connaître des oppositions, des persécutions. Timothée, prépare l'avenir, réanime ta foi, allume ton esprit à la parole de Dieu. Timothée était un peu fragile et déjà à son époque, il y avait des mauvais enseignements, il y avait des gens qui étaient méchants, il y avait un nommé Alexandre qui était forgeron, qui était une brute qui n'hésitait pas de frapper de ses paroles dures sur Timothée qui était tout frêle et tout timide. Alors Timothée, il faut que tu réenflammes, comme si peut-être ta flamme s'était un petit peu diminuée. Il faut que tu réenflammes ton cœur pour le ministère. C'est quoi ce don de Dieu? Ranime le don de Dieu. Peut-être est-ce tout simplement le Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit, je l'ai reçu, et vous aussi, mais je le réclame tous les jours. Je le réclame sans cesse. Je dis, Seigneur, remplis-moi de la sagesse du Saint-Esprit, remplis-moi de la force du Saint-Esprit, afin que partout où je suis, dans les jours de joie, d'obsèques, de complications, d'encombrement, je sois fort, joyeux et paisible, pas forcément victorieux surtout, mais que je sois toujours debout avec toi. Le don de Dieu, c'est peut-être le Saint-Esprit qu'il faut toujours demander. Peut-être que le don de Dieu chez Timothée ranime le don de Dieu, réenflamme le don de Dieu. C'est peut-être ton ministère, Timothée, ton service dans l'Église, tout simplement ton ministère, ou une grâce que Dieu t'a donnée pour servir. Eh bien, tout cela, il faut que tu réenflammes. Vous savez comment le Seigneur faisait pour réenflammer le cœur des premiers chrétiens ? Un jour, le Seigneur est ressuscité. Et le soir de Pâques, il est parti sur un chemin, il marchait, et il a rencontré deux disciples qui étaient tristes, qui étaient malheureux, qui baissaient la tête. Et Jésus leur a dit, « Mais de quoi discutez-vous pour que vous soyez tout tristes ?» Alors, ils ont dit, « Mais enfin, tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé à certain Jésus de Nazareth, qui était puissant en parole, en œuvre. » Et comment nos magistrats l'ont livré à mort. Et Jésus leur parle. Il leur parle des paroles de la Bible qui prévoyaient ces choses. Il leur parle pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et au fur et à mesure que Jésus leur parle, leur cœur se met à brûler, à être réenflammé. Et je pense que la lecture de la Bible que je pratique tous les jours, et vous aussi, réenflamme notre cœur, afin qu'il ne s'éteigne pas. Dieu souffle sur les ossements desséchés dans l'Ancien Testament. On a besoin que le Seigneur nous parle pour être réenflammé de courage et de joie, pas une joie hilare, pas une joie devant tout, mais une joie en Dieu, savoir que Dieu est avec nous. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, mais je vais vous dire un tout petit mot sur le don de Dieu, sur les grâces que nous donne le Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit qui nous donne la force dans notre esprit. Force pourquoi ? Pour une prédication efficace, pour que la parole que j'annonce, que vous annoncez dans votre témoignage, elle puisse agir dans le cœur de vos enfants rebelles, qu'elle puisse agir dans le cœur de vos parents. Pour cela, il faut une force en nous qui n'est pas simplement une conviction, une persuasion, un ton très fort, une voix très forte, c'est une force qui dépasse nos forces, qui est cachée en nous et qui va dans le cœur des autres. Cette force, c'est aussi du courage. Un esprit de force, un esprit courageux pour toutes les formes de témoignage qu'on veut rendre à Jésus. Dans ma jeunesse, j'allais faire des visites dans les hôpitaux, j'allais faire des visites dans les maisons, j'en ai visité des dizaines de milliers. Et puis, parfois, je revenais chez moi et je n'avais pas le courage. Ouf, j'étais sans force, j'étais vraiment, moi qui étais le champion de la timidité. Je rentrais et je repartais, et je rentrais chez moi et je repartais. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de courage pour toutes les formes de témoignage que tu entreprendras. Mais aussi une force pour que ta vie soit agréable aux autres. Parce qu'on témoigne de Jésus par sa vie, sa façon de parler, sa façon d'être, de s'habiller même. On parle de Jésus par son langage, par son regard, par son sourire. On parle de Jésus par toute sa vie. Notre vie est un témoignage. Et puis, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et un esprit d'amour. Pour que cette force ne soit pas comprise comme une force dominatrice. J'aime pas les gens qui veulent dominer, surtout dans la foi ou dans l'amour. C'est comme si un jeune homme disait à sa fiancée, t'as intérêt à m'épouser. Ouf, mollo, du calme. Tu as intérêt à faire. L'amour apporte finalement une modération à la force du Saint-Esprit. L'amour laisse les gens libres. L'amour, ça montre que le témoignage n'est pas très théâtral. Sinon, il serait diabolique. Ce serait la séduction de Satan. L'amour, c'est un esprit d'amour pour les frères de l'Église, les sœurs. C'est un esprit d'amour pour la vérité. On aime la vérité de la Bible. C'est un esprit d'amour pour tous les autres, les gens qui vivent dans la détresse, les migrants sur les rues, dans les rues, et puis tous ceux qui sont au loin dans la détresse de la guerre. L'amour, c'est aussi pour les frères en difficulté, en rébellion. Je crois qu'il faut les aimer, il faut leur tendre la main. Que Dieu les bénisse. Amen. Et puis, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Le mot grec, c'est la modération, l'esprit de modération. Hop là, mesuré. Autrement dit, un esprit sage, prudent, maîtrise de soi. On reste maître de ses nerfs, on reste maître de ses paroles, on reste maître de ses pensées, de ses gestes. Il ne faut pas que la force de l'Évangile, que je crois, soit brutale. Il ne faut pas faire peur aux gens. Même si la situation aujourd'hui est gravissime, il ne faut pas faire peur, il ne faut pas de contraintes, il ne faut pas obliger. C'est un appel, l'Évangile. Dieu ne nous donne pas une contrainte, mais une conviction. Ce n'est pas pareil. La foi, c'est une conviction intérieure que le Seigneur produit en nous. Et tout ça, ça vient de la part du Saint-Esprit. Alors n'aie donc pas honte, dira l'apôtre, le témoignage que tu dois rendre à l'Évangile. L'Évangile est glorieux, c'est beau, il n'y a rien de plus beau. J'ai donné ma vie pour l'Évangile et je voudrais donner 1000 vies si je pouvais, tellement ça remplit ma vie. Un jour, quelqu'un disait, le christianisme, ça ne me suffit pas, ça ne me suffit pas, il me faut autre chose. Moi, ça m'a rempli, ça m'a comblé, ça m'a satisfait complètement. Alors, c'est glorieux l'Évangile, mais il peut y avoir dans nos témoignages, dans la prédication, dans la communication de l'Évangile, une sorte de honte, d'hésitation, de recul. On se tait parce qu'on a devant nous des gens qui rigolent, qui ricanent, je préfère le mot ricaner, des gens qui se moquent, qui ne comprennent pas, qui s'opposent, qui nous menacent. J'ai été menacé de mort plusieurs fois, j'ai reçu des coups de toutes sortes. Ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. Alors, n'aie pas honte de cet Évangile, parce que c'est l'Évangile qui promet la vie aux gens, des gens qui n'y arrivent pas, qui ne savent plus où aller, comment faire, qui croire. L'Évangile promet la vie aux gens. Il faut l'annoncer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, ranime, réenflamme. Vous savez, dans le temple autrefois, le temple de Jérusalem, il y avait des chandeliers qui brûlaient jour et nuit. Mais ce n'était pas l'électricité qu'on peut allumer jour et nuit. C'était de l'huile qu'on mettait sur le chandelier qui éclairait toute la maison de Dieu. Comme nous, nous devons être allumés, pardonnez-moi, éclairant toute l'Église sans cesse. Mais si c'était l'électricité, ça durerait toujours, mais l'huile, au bout d'un moment, il fallait enlever les cendres de la mèche. Il fallait enlever les cendres qui finissaient par étouffer la flamme. Et le chandelier n'éclairait plus. Alors on prenait un petit moment pour enlever la cendre, pour que la flamme reparte mieux. Et je pense que dans nos vies, parfois, il y a des cendres. Oui, il y a des choses qui se sont déposées très fines. La cendre, ça ne pèse pas des tonnes, mais ça peut étouffer une flamme. Ça peut faire qu'on est dans l'ombre. Eh bien, je pense à toutes ces rancunes, ces mesquineries, toutes ces piques, tous ces coups d'aiguille, et tout ce qui finalement finit par étouffer la flamme de Dieu en nous. Alors il faut enlever les cendres, il faut rallumer la flamme, réenflamme ton cœur, Timothée, ne sois pas timide, compte sur le Seigneur, tu as la foi en toi, alors sers-toi de ta foi pour avoir plus de foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ta parole. Oui, nous voulons réenflammer notre cœur pour toi et pour les autres, pour l'œuvre de Jésus dans le monde. Nous voulons réenflammer notre cœur devant la souffrance des autres, devant les chagrins et les deuils, et devant l'incroyance de notre monde. Ce que tu as donné aux apôtres, c'est vrai, c'est juste, c'est suffisant pour les siècles et les siècles à venir. Nous n'avons pas à changer quelque chose, nous voulons simplement nous changer nous-mêmes, nous réenflammer. Et la suite, elle est dans tes mains, Seigneur. Avec ce même évangile, tu as sauvé dans tous les siècles passés. Et jusqu'à ton retour, il en sera ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bénis ton Église à Rennes et partout où elle est. Bénis-la dans son témoignage, dans son message. Bénis-la dans sa présence au monde. Bénis-la dans ses contradictions, dans ses contrariétés. Bénis-la, Seigneur. Je t'en prie. Amen.